Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes bien attentifs parce que juste avant de commencer cette vidéo, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter tout simplement le projet le plus ambitieux jamais fait sur Kill Teal qu'on a pour l'instant temporairement appelé le Pacte. Ça fait un peu plus de 6 mois qu'on travaille dessus et l'idée est très simple, pendant un an, dès le début janvier de 2023, on va vous accompagner pendant un an pour progresser au poker en tournoi. Tout au long de l'année, il y aura donc 2 à 3 vidéos par semaine avec de la théorie, de la technique, de la review, des lives, du coaching, du mental, bien évidemment aussi des FAQ et finalement tout format qu'on jugera, que vous jugerez pertinent pour vous aider à progresser de la façon la plus efficace. Il y aura bien évidemment des lives où on va favoriser l'interaction avec tous ceux qui ont rejoint l'aventure. Le but, c'est bien évidemment de vous aider et de répondre en direct à vos problématiques. Mais il y aura aussi des vidéos beaucoup plus approfondies et pédagogiques où là, on va analyser en détail tout ce qui va vous aider en tournoi. Alors ne vous inquiétez pas, je détaillerai tout ça beaucoup plus précisément d'ici 2 ou 3 semaines dans une vidéo YouTube spéciale qui sortira sur ce sujet. Mais justement, avant de détailler tout ce gros projet pour 2023, on a besoin de vous pour être certain que ce qu'on va fournir répond vraiment à vos problématiques, à vos inquiétudes, aux obstacles que vous rencontrez et être donc certain de fournir la plus grande qualité possible. Du coup, tout simplement, on a préparé un questionnaire pour que vous puissiez nous aider à nous dire ce que vous attendez d'un projet de la sorte. Ça prend que 2 minutes de votre temps et ça nous permettra de faire l'offre la plus adaptée possible. Cliquez donc du coup dans le lien qui est en description pour accéder à ce questionnaire et nous aider à créer le projet le plus ambitieux de Kill Teal, ce qu'on a temporairement appelé le Pacte. Merci à tous ceux qui vont nous aider à co-créer ce projet. On vous donne des détails très rapidement et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Et salut tout le monde, bienvenue à toute la communauté Kill Teal. Je suis ravi aujourd'hui de faire une vidéo avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu il y a quelques années. Salut Adrien.
Salut Simon.
Comment tu
vas ? Ravi, très bien, je suis très très content de faire cette vidéo avec toi, très content de retrouver ta communauté, la communauté Kill Teal.
Et oui. Ravi. Ça fait un moment, on avait voulu faire cette vidéo à plusieurs reprises, notre agenda collait pas, c'était très compliqué. Notre cher invité Adrien ici a un planning vraiment vraiment chargé. Du coup, je vais te présenter très rapidement et te demander d'aller un peu plus dans le détail. Tu es docteur en sciences cognitives, tu vas nous expliquer un peu plus ce que c'est par la suite. On a bossé ensemble il y a 5-6 ans, on avait fait une petite vidéo sur Kill Teal, on a collaboré un petit peu et puis tu en es venu à faire 8 heures, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, de vidéo dans la masterclass Progresser au poker pour apporter ton expertise sur la gestion des émotions, du stress, de l'anxiété, la performance, bien optimiser son apprentissage et utiliser notre cerveau, qui est un outil assez important, à la fois dans la vie, mais surtout au poker. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu plus pour que les gens comprennent déjà qu'est-ce que c'est les sciences cognitives, quelle est ton expertise, un petit peu ce que tu fais également et en quoi c'est une application concrète qui va vraiment nous aider en tant que joueur de poker. Et puis, on embrayera justement sur 5 mythes sur le mental au poker qu'on aimerait bien débunker aujourd'hui de façon aussi vulgarisée et pédagogique que possible. Voilà, je te laisse enchaîner.
Merci beaucoup Simon. Donc oui, docteur en sciences cognitives. Alors, c'est quoi un docteur en sciences cognitives? C'est quelqu'un qui a bossé durement sur un sujet en lien avec la capacité du cerveau à traiter de l'information. En gros, c'est un peu l'idée. C'est très grosse maille là ce que je suis en train de dire, mais moi j'ai étudié particulièrement l'impact du stress et de l'anxiété sur le fonctionnement cérébral. J'ai fait cette thèse sous la direction d'un neurologue et au moment où je parle, je suis enseignant-chercheur associé dans un laboratoire, une unité mixte CNRS qui s'appelle le CERCA, le Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage qui dépend de l'Université de Poitiers. Je suis membre de l'équipe pédagogique de l'IRIAF, l'Institut des risques industriels, assurantiels et financiers. Mes thèmes de recherche actuels gravitent beaucoup autour de la question de la régulation des émotions. Comment est-ce que je fais pour que l'émotion n'impacte pas ma performance? Comment je régule tout ça? Et voilà, je donne des cours à l'université évidemment. Et à côté de ça, j'ai une activité dans le privé, dans une boîte qui s'appelle Sensei, pour laquelle je suis directeur scientifique. Et beaucoup d'interventions dans les entreprises, très récemment, et on m'a souvent sollicité, mais c'est que très récemment que j'ai commencé à accepter de faire un peu de coaching, qui m'a fortement été demandé depuis maintenant pas mal, quelques semaines. Et donc voilà, un pied à la fois dans la recherche fondamentale, dans l'enseignement universitaire et dans les contextes dans lesquels il est pertinent d'appliquer tout ce qu'on trouve dans nos chers laboratoires français. Voilà.
Exactement. Donc c'est ça qui est très important et c'est pour ça qu'on a de suite beaucoup accroché avec Adrien. C'est que on n'essaye pas de faire de la théorie pour de la théorie. Il y a de la recherche, certes, pour avoir des fondamentaux précis, théoriques, extrêmement solides. Mais le but de tout ça, c'est d'avoir une application très concrète, d'améliorer notre régulation émotionnelle et évidemment aussi notre prise de décision. Et ce qui est très marrant, c'est qu'évidemment au poker, mon site, notre communauté s'appelle Kill Tilt. On reviendra d'ailleurs sur ça, sur l'idée de tuer le tilt, qui est un petit peu fausse en réalité. Mais bref, évidemment au poker, on passe notre vie à prendre des décisions. C'est littéralement l'activité de joueur de poker, c'est prendre des décisions. Et bien évidemment, vous le savez, la qualité de notre concentration, l'intensité de nos émotions vont avoir un impact absolument crucial. Donc l'application est très concrète et très directe. On va parler de ça. J'insiste du coup, un joueur de poker, bien évidemment, si on caricature très vite, il fait deux choses. Il joue sur les tables et il a besoin de jouer son meilleur poker lorsqu'il joue sur les tables. Donc être extrêmement concentré, motivé, stable émotionnellement pour faire sa meilleure performance. Et lorsqu'il est en dehors des tables, il a besoin de progresser de la façon la plus optimale possible lorsqu'il travaille son poker, mais aussi, par exemple, avoir un bon sommeil, se détendre, faire du sport, etc., etc., permet aussi d'être dans un bon environnement. Donc, est-ce que toi, tu veux enchaîner sur quelque chose de particulier là-dessus, ou on part directement sur le premier mythe?
Non, non, effectivement, j'aimerais rebondir là-dessus pour que les gens comprennent bien. Quand on est une table de poker, le cerveau, c'est l'usine à performance. Voilà. La matière première de cette usine, c'est l'information. C'est votre jeu, c'est celui que vous supposez de l'adversaire, c'est ce qui se passe à la table, c'est ce que vous avez emmagasiné dans la base de données de cette usine au fur et à mesure de votre expérience, au fur et à mesure que vous avez regardé les vidéos Kill Tilt et toute la matière que donne Kill Tilt. Et le produit final de cette usine, c'est, comme l'a dit Simon, une prise de décision. Okay? Entre les deux, il y a le cerveau. Ce qui fait que cette entreprise, un indicateur qui fait que cette entreprise tourne bien, c'est l'argent finalement, hein, comme dans toute entreprise d'ailleurs, hein, pour le coup. L'argent sur le long terme, puisque vous savez qu'au poker, ce qui se passe dans un rayon de 2 minutes n'est pas forcément représentatif de l'efficacité de cette usine. Mais comprendre que le cerveau, c'est cette usine, que la matière première, c'est l'information et le produit final, c'est la prise de décision, c'est tout simplement comprendre que la cognition, connaître sa cognition, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, quel est son potentiel, c'est tout simplement l'accès à une meilleure performance. Alors, le terme cognition couvre beaucoup, beaucoup de choses. On va en parler un petit peu. Mais concrètement, si je suis chef d'entreprise, si je suis directeur d'une usine, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les différents services qui sont liés à cette usine et pour pouvoir les faire fonctionner, les optimiser en fait, hein. Et donc, c'est ce qu'on vous propose dans la masterclass par ailleurs. Et puis, c'est un petit peu ce dont on va parler aussi aujourd'hui à travers les neuromythes, les mythes. Ce n'est pas les neuromythes, c'est les mythes qu'on va aborder tous ensemble. Voilà.
Ok, très bien. Je note aussi ça, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tu as donné, et j'ai eu la chance d'intervenir grâce à toi, du coup, dans un Master 2 de psychologie cognitive, où, et je profite pour répondre à la communauté qui m'avait dit que ça les intéresserait peut-être, où on a donné, et puis ensuite moi tout seul, j'ai pu donner un cours sur l'évaluation de la prise de décision dans des contextes à risque, où du coup les émotions sont très intenses. Donc c'est un cours qui durait une journée, 7-8 heures, et je pense. Dites-nous dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse. On pourrait peut-être vous faire une synthèse d'une heure de ce cours où globalement on définit les critères qui permettent d'évaluer la qualité d'une décision quand il y a beaucoup de risques qui sont en jeu et des émotions. Évidemment, un joueur de poker, encore une fois, passe son temps à prendre des décisions. Il évalue un risque. le risque de gagner le coup, de le perdre, etc. Et il est évidemment dans un contexte où il y a beaucoup de pression, en tout cas plus ou moins. Évidemment, si vous êtes en table finale d'un gros tournoi, vous le savez si ça vous est arrivé, la pression fait qu'évaluer la qualité de votre décision est plus complexe. Donc si ça vous intéresse, on pourra synthétiser ça.
Oui, et puis il y a des choses dans ce cours aussi, je rebondis, pardon Simon, mais il y a des choses dans ce cours très intéressantes au-delà de la question de l'évaluation elle-même, mais il y a des choses très intéressantes à découvrir sur les biais cognitifs, sur tous ces facteurs finalement qui vont à un moment donné modifier ma prise de décision pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça, c'est aussi très intéressant au-delà de l'évaluation à proprement parler.
Complètement. On part sur le premier mythe, on va dire, qu'on a identifié, donc on va en couvrir 5. On va essayer de ne pas être trop long, donc peut-être qu'il y en a certains sur lesquels on va s'attarder seulement 10-15 minutes et d'autres 20 minutes, mais on aimerait que la vidéo reste pas trop longue. Donc le premier mythe, c'est que globalement, il y aurait l'idée, et comme je vous l'ai dit, en plus mon site s'appelle comme ça, le premier mythe, ce serait qu'on peut supprimer totalement le tilt de façon durable, quoi. Ok, donc je te laisse enchaîner de suite sur cette notion. C'est ce qui te tenait le plus à cœur. Donc on enchaîne.
Ça, oui, parce que effectivement, qu'il tilt, peut-on vraiment tuer le tilt ça me paraissait original vraiment de présenter les choses comme ça, d'autant plus par rapport, comme tu dis, au nom du site. On va pas faire durer le suspense. La réponse est non. Non, parce que ça reviendrait à se dire est-ce que je peux ne pas avoir d'émotion. Je l'ai dit, je crois, dans d'autres interviews, mais, et je le dis souvent à mes étudiants, si j'ai pas d'émotion, enfin, si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas d'émotion, au mieux, c'est un menteur. Au pire, c'est avec de l'humour, évidemment, c'est un tueur en série, mais dans les deux cas, il n'est pas très fréquentable. On a besoin de nos émotions.
Alors, attends, je fais tout de suite parenthèse parce que les gens peut-être comprennent ça. Littéralement, les plus gros psychopathes, effectivement, n'ont pas beaucoup d'émotions, n'ont aucune empathie, par exemple, et donc c'est pour ça qu'ils en viennent à dégénérer. Ça peut être un vrai problème émotionnel. C'est quasiment génétique, et puis j'imagine qu'on peut grandir dans un contexte en plus qui détruit notre capacité à avoir des émotions saines. Mais si vous êtes un humain normal, vous ne pouvez pas supprimer totalement vos émotions, bien évidemment. Quoi.
On peut pas, voilà. L'idée, c'est d'apprendre à faire avec. Et ce qu'on peut dire par rapport à tuer le tilt, pour améliorer les choses à ce niveau-là, donc pas chercher à supprimer à 100% le tilt, encore une fois, c'est pas possible, c'est un objectif irréaliste. Se fixer cet objectif irréaliste, ça veut dire aller dans le mur, et aller dans le mur, ça veut dire baisse d'estime de soi, ça veut dire double peine, c'est-à-dire que non seulement j'ai tilté, donc je me sens pas bien, et en plus, je m'en veux d'avoir tilté parce que je m'étais fixé comme objectif que ça, il faut que ça n'arrive jamais. C'est pas possible, c'est contre-productif. En revanche, ce qu'il faut chercher à instaurer, c'est cette capacité à identifier plus rapidement les moments où on rentre en tilt. Bah oui, parce que quand je me mets à partir un petit peu en live aux tables, il y a à ce moment-là des phénomènes émotionnels, des phénomènes de focus sur une situation et qui peuvent retarder le temps où je prends conscience de ce tilt. Ensuite, et c'est un peu un préalable à tout ça. L'idée, c'est qu'il faut complètement accepter le fait de pouvoir rentrer en tilt. C'est une condition sine qua non préalable. J'accepte pleinement l'idée que je suis un être humain, j'ai des émotions, je peux ressentir de la frustration. Donc, j'accepte que je puisse rentrer en tilt. Donc, j'identifie et à partir de ce moment-là, je vais tenter de le réguler. Je vais tenter de diminuer son intensité, je vais tenter à terme, évidemment, de réduire sa fréquence. Et surtout, je vais tenter à ce moment-là de sortir de cette zone de tilt le plus vite possible. Okay alors, comment est-ce qu'on fait c'est une courte vidéo, on va pas trop rentrer dans les détails, mais cette idée, l'idée, elle est... sur le papier, en tout cas, c'est simple. Quand je rentre en tilt, j'ai un système de pensée automatique qui arrive suite à une situation, un déclencheur. Hein, je me suis fait craquer ma perdasse, c'est l'exemple que je prends assez souvent. Et ces pensées-là entraînent un comportement, entraînent une émotion, la colère, la frustration. Et puisqu'on parlait de prise de décision et du cours qu'on a donné avec Simon en M2 qui donne maintenant tout seul au Master 2, mais les émotions telles que la colère, la frustration, ça nous fait prendre plus de risques. On sait bien, il y a des travaux qui le montrent très clairement, et c'est là où on se met à spew, comme on dit dans le poker. Du coup, cette capacité à identifier ces situations-là, cette capacité à changer l'état d'esprit, la perception du moment, elles vont mécaniquement changer le comportement qu'on peut avoir à ce moment-là. Et puis, tout simplement, sortir du tilt, c'est juste appuyer sur la petite croix de la fenêtre quand on joue en ligne et arrêter une session.
Alors exactement, tu me tends une très bonne et courte transition. C'est important de distinguer dans le tilt son ressenti et le moment où la colère et la frustration, par exemple, se manifestent à l'intérieur de vous, et le tilt tel que, dans l'image un peu caricaturale, on le voit, mais qui arrive souvent, ça m'est arrivé, où on prend son clavier ou son écran et on tape dessus. Moi, j'ai un pote qui a jeté son PC portable dans la piscine. Il grindait à côté de la piscine. Donc, il faut distinguer l'émotion même vécue et ressentie et le comportement associé qui est, alors peut-être tu vas me reprendre, c'est pas exactement ça, mais qui est une réaction à cette émotion. Donc, si effectivement on ne peut jamais, et là peut-être tu vas me corriger, mais moi j'ai l'impression que c'est le cas, on ne peut jamais supprimer nos émotions, comme tu l'as très bien dit, on peut en réduire l'intensité, les réguler, en réduire la fréquence, mais ce qu'on peut apprendre à faire, c'est y réagir différemment. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, tuer, peut-être pas toute notre vie, mais quasiment tout le temps, c'est certaines réactions délétères où on dit, ah ben, je suis pas content, je suis en colère, je casse mon PC ou je fais n'importe quoi aux tables. Parce qu'on aura changé notre réaction comportementale face à cette émotion. Et on aura pu, évidemment, changer aussi les pensées associées à ces émotions. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais j'aimerais quand même porter ce message. Il est possible, même en ressentant plus ou moins la même émotion, changer sa réaction. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend, c'est une véritable éducation, mais toi et moi, on a des enfants. Si un enfant en bas âge, il est en colère et qui tape, on va lui apprendre à dire ok, tu as le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit de taper. Donc on va apprendre à rediriger la colère d'une autre façon pour qu'elle se manifeste pas pareil. Comme tu l'as dit, on peut aussi fermer les tables. Donc on n'a pas vraiment tué le tilt, on est toujours en colère, mais notre réaction, c'est plus d'exploser notre clavier ou de faire n'importe quoi sur les tables, c'est de fermer la session pour avoir une réaction plus saine, moins dramatique. Voilà, je te laisse rebondir.
Non, mais merci. Très clairement, quand on parle de suppression des émotions, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des émotions. L'émotion, c'est une réaction soudaine, brève, sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle. Quand elle arrive, en tout cas, on ne peut pas l'empêcher de venir. On peut, et il y a des gens qui le font, hein, partir dans des stratégies de régulation émotionnelle qui consistent à supprimer. Essayer d'enfouir, supprimer, refouler l'émotion. Ça, on sait que sur le long terme, ce n'est pas une bonne idée, très clairement, ce que j'explique un peu dans la masterclass. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est finalement ce dont on est en train de parler, et c'est un conseil très pratico-pratique à vous donner là sur ce premier mythe, c'est anticiper, réfléchir à l'avance, configurer la réaction qui va être la mienne. Lorsque j'en serai aux tables et que je vais identifier ce
Exactement.
fameux. Voilà. Alors, ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien pourquoi? Parce que on va réduire l'incertitude de ce qui peut se passer sur les tables quand on va rentrer dans cette zone de tilt. Et donc, ça rassure. Ça permet de diminuer l'appréhension par rapport à ce qui va se passer. Et puis, ce comportement qu'on configure, qu'on préconfigure, je ne sais pas comment le dire de manière précise, on a à ce moment-là un espèce de script, voilà, de ce qui va se passer, de comment on va réagir. Et ça va maximiser les chances que on mette pas en place à ce moment-là un comportement mauvais. Donc,
Exactement.
ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper la situation, prévoir un petit temps comme ça, faire l'inventaire, ça prend quelques minutes, établir un si et un alors. Hein.
Ça, c'est ce qu'on voit dans les
Si.
thé. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai lu un truc. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les thérapies brèves, parfois en psychologie? S'il se passe tel truc, alors je mets en place telle action concrète. Et on se conditionne un peu à avoir face à telle réaction qu'on peut avoir et tel événement, tac, une autre solution. Excuse-moi de t'interrompre,
Exactement.
mais j'ai
Non,
vu ça
non,
très
je t'en prie.
récemment, donc Ça me fait marrer.
Non, mais c'est bien sûr, c'est ça. C'est voilà, si un événement se produit, et donc là, je définis précisément quel est cet événement. Je prends des indicateurs les plus précis possibles. Si cet événement se produit, alors mon comportement va être celui-là. Et n'hésitez pas à mettre des, quand vous allez écrire ça, hein, ça, prenez un quart de feuille, ça va très vite. Ce qu'on va écrire à ce moment-là, c'est très précis. C'est des actions basiques. C'est je mets ma main sur la souris, je dirige ma souris vers la petite croix et j'appuie. Déterminez très clairement dans l'ordre les étapes que vous allez suivre, même très basiques pour mettre en œuvre le comportement. Et puis vous rajoutez un aussi. Donc il y a un si, il y a un alors et il y a un pour. Il y a un objectif derrière. Je fais tout ça pour sortir rapidement de cette zone de tilt pour m'éviter de perdre tout le bénéfice, le profit de ce que j'ai fait sur l'heure qui a précédé, etc., etc. Okay?
Exactement.
Alors là, on dit les choses de manière, comment dire, on rentre pas trop dans le technique, évidemment, mais ça c'est un petit conseil qui vous aidera sur ce premier mythe. Mais voilà, sortez-vous de la tilt. Qu'on ne peut pas, qu'on peut tuer le tilt. Kill tilt.
Exactement. Bien évidemment, je rajoute, Adrien a pris un exemple qui est très bon. Vous pouvez vous dire, ok, si je sens le tilt, je pose ma main sur la souris, je dirige le curseur en haut à droite pour cliquer sur fermer. Ça peut être évidemment toute autre stratégie que vous devez essayer jusqu'à trouver ce qui marche pour vous. On dit souvent en anglais whatever works. Ça peut être par exemple, je tourne ma chaise, donc je ne vais pas le faire, mais je me tourne dos à mon écran et je prends 5 grandes respirations et je vois si
Par
ça va
exemple.
un peu mieux. Ça peut être un milliard de choses qu'il faut tester, évidemment. Vous devez être maître hein, de tout ça. Enfin, je veux dire autonome, pardon, dans vos stratégies. Il y a un truc aussi que j'aimerais ajouter que tu as un peu suggéré tout à l'heure. C'est que ce qui est intéressant à faire, je pense, tu me dis si ça te parle, c'est un travail de fond sur la perception, la vision des choses et l'histoire qu'on se raconte en arrière-fond tout le temps. Par exemple, si vous arrivez aux tables et que vous avez ruminé pendant les 2-3 jours avant, moi je suis malchanceux, j'y arriverai jamais au poker, c'est que de la chatte, c'est incroyable, lui il est trop nul, il gagne deux fois plus que moi, de toute façon ce jeu c'est impossible de gagner en fait, et que vous avez ça en arrière-fond, évidemment, les premiers signes où vous allez commencer à vous faire craquer une paire d'as, ne pas avoir de chance, ça va nourrir cette histoire qui est déjà un terrain très sensible. Qui favorise l'explosion de ses émotions. Et évidemment, un gros travail, je crois qu'on fait ça dans les thérapies cognitives et comportementales, si je dis pas de bêtises, mais dans d'autres thérapies même, c'est d'entretenir une vision un peu plus corrélée à la réalité des choses. Évidemment, l'histoire que vous vous racontez, qui est « je suis le plus malchanceux de l'univers », c'est évidemment faux. Lui, il est trop nul, il gagne deux fois plus que moi. En fait, on n'en sait rien, ou c'est peut-être sur le court terme. Si cette personne est trop nulle, elle est perdante sur le long terme, etc. Donc, entretenir une vision des choses plus saine, plus réaliste, en arrière-fond, est un travail qui va vous permettre aussi, lorsque les émotions se manifestent, qu'elles se déclenchent moins rapidement, avec moins d'intensité. Voire même, et moi, quand j'étais joueur pro à la fin de ma carrière, on va dire, quand j'avais pas mal travaillé le mental, c'est ce qui se passait quand je commençais à bad run. J'avais vraiment une petite note sur mon écran qui me permettait de récapituler certaines phrases justes et réalistes sur ce qu'est la variance, le bad rum, pour me remettre dans les clous. Parce qu'on a très vite fait de se raconter une histoire qui nourrit déjà une vision un peu toxique du poker et qui va nous influencer dans un flot d'émotions négatives qui va être encore plus dur de gérer. Un peu comme si on mettait de l'huile sur le feu, voilà. Moi, je suis pas scientifique, c'est pas mon domaine d'expertise autant que toi. Mais est-ce que ça te parle et tu veux rebondir? Et puis voilà, on passe de suite au mythe numéro 2 ensuite.
Alors là, on va rentrer un peu plus dans le technique du coup. Et ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que, ce que je défends, ce que tu défends aussi, Simon, hein, c'est vraiment que la connaissance des mécanismes cognitifs permet la progression, permet l'optimisation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais de l'usine à performance qu'est le cerveau. Mais ce que tu évoques là, c'est l'idée dont la manière, c'est la manière dont les émotions émergent. Ce qui est la genèse des émotions. Et l'émotion, c'est toujours le fruit d'une perception, en fait, hein. C'est-à-dire que le fait qu'on se fasse craquer une paire d'as, en soi, intrinsèquement, c'est pas vecteur d'émotion.
C'est un événement neutre, entre guillemets. Nous, on l'interprète qu'il n'est pas bon, évidemment, mais...
Voilà, l'émotion, c'est toujours une affaire d'interprétation. Les modèles théoriques les plus aboutis de l'émotion, les plus consensuels dans les sciences cognitives, c'est cela. L'émotion, c'est toujours le fruit d'une interprétation de ce qui est en train de se produire et du retentissement que ça a sur moi, de ma capacité à contrôler l'événement, à le prédire, à savoir qui en est la cause, est-ce que c'est compatible ou pas avec mes valeurs, bref, tout ça. Je crois que dans une interview qu'on avait fait avec il y a quelque temps, j'avais expliqué, je me souviens plus du prénom de la
Je
personne,
pense que
mais
c'était avec Alexandre Réard, je pense, sur Twitch et Sylvain Lousli. Il me semble que c'était ça, mais peu importe.
voilà, bref, et j'expliquais, voilà, le glaçon, tu me le poses sur la peau. Si j'ai très froid, ça va être source d'émotions négatives. Si j'ai très chaud, ça va être source d'émotions positives parce que ça va me rafraîchir, etc. Donc c'est l'émotion n'est jamais inscrite dans l'objet. Pareil, je pourrais aussi
Ouais,
la
fais
développer,
court.
mais je vais essayer de faire court, mais toujours dans l'interprétation qu'on a de ce truc-là. Donc, tout ce qui va consister a posteriori ou à l'avance d'un événement, à se questionner sur cette perception-là, sur cette interprétation, à travailler cette interprétation va me permettre de modifier les
Exactement.
pensées automatiques que je peux avoir dans la situation quand elle va se reproduire, par exemple, et donc mécaniquement va changer la nature de l'émotion
C'est ça.
que je peux ressentir dans l'événement, ou alors à minima modifier l'intensité. D'accord? Donc ça, c'est un travail effectivement qu'on apprend à faire quand dans certains types de thérapies qu'a cité Simon, les thérapies cognitives et comportementales. Mais on peut tout à fait, moi je le fais bien avec les gens que je forme dans les entreprises, adapter ces procédures dans des situations où il n'y a pas de pathologie psychologique, dans des situations de la vie de tous les jours où on veut juste un peu être plus performant, mieux gérer certaines situations, etc., etc. Donc c'est voilà, ce dont on parle, c'est ça.
Ok. Écoute, est-ce que tu te sens d'enchaîner de suite sur le deuxième mythe ou tu veux conclure Je regarde l'horloge pour pas qu'on soit trop long,
Non,
c'est tout
non,
ça,
on
hein.
peut. Si vous avez des questions, si vous avez,
Voilà.
n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Là, on va un petit peu vite sur certains sujets, mais voilà, on essaye de mettre les points essentiels à
Voilà.
chaque fois.
Théorie et pratique, exactement. Donc voilà, pour résumer, vous l'avez compris, impossible de parfaitement tuer le tilt, on peut réduire son intensité, sa fréquence, et par contre, tuer, entre guillemets, supprimer certaines réactions parmi les
Voilà,
plus
et
néfastes.
sortir vite de cette zone. Voilà, c'est ça le.
Exactement.
Identifier rapidement pour en sortir plus rapidement.
Certes, donc, mythe numéro 2 auquel on voulait s'attaquer, ça c'est vraiment un truc qui est ultra néfaste pour vous. N'oubliez pas hein, que ce concept de double peine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous souffrez, si en plus vous avez une autre couche de souffrance qui arrive, qui est oh là là, je tilte mais je devrais pas tilter, je suis en colère mais je devrais pas être en colère, c'est vraiment contre-productif. Et là, c'est pareil sur ce deuxième mythe. Ce deuxième mythe étant je devrais tout le temps être motivé ou je devrais tout le temps rester concentré pendant ma session. On a décidé de choisir ce double axe motivation-concentration parce qu'il marche vraiment main dans la main. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps chez les joueurs de poker qui pensent, qui espèrent, encore une fois, avec un objectif complètement irréaliste, de penser qu'ils vont être 100% du temps au top de leur motivation, 100% du temps au top de leur concentration. Je vous invite à regarder une vidéo qu'on a fait dans un talk avec David Ikitaï. Et si je dis pas de bêtises, il y avait Guillaume Diaz et Gaël Baumann, je pense, où David Ikitaï dit ça, que ça l'a énormément aidé le jour où il a compris qu'il ne pouvait pas, pendant un tournoi de poker qui dure 10 heures, être concentré à fond 100% du temps. Ça peut paraître évident, mais bien le comprendre et bien le vivre à une table pour gérer les fluctuations de cette concentration, ce sera pareil pour la motivation, est très bénéfique. Donc je te laisse enchaîner, Adrien, sur cette idée.
Eh ben, écoute, dans la continuité de ce qu'on a dit juste avant, et ça va être un peu le fil rouge finalement de ces mythes, c'est on est encore dans l'acceptation, on est encore dans la connaissance et cette idée réaliste de ce qu'est l'être humain, de sa cognition, des propriétés, des limites de cette cognition, et dans l'acceptation. Dans l'acceptation. Et effectivement, éviter cette double peine de Voilà, je joue 10 heures par jour, je dois être concentré 10 heures par jour. Ben non, mon coco, l'attention, tu peux pas. C'est pas quelque chose, une fonction qui est configurée pour te permettre de rester concentré 10 heures par jour. Donc,
Même 2 heures, si je dis pas de bêtises, il y a peu de chances que sur les 2 heures, vous soyez à 10
alors,
sur 10 de concentration non-stop. Il y aura
bien
des
sûr,
petites fluctuations malgré tout.
voilà, ça va dépendre de plein de facteurs, mais éviter la double peine de là, je suis en train de perdre ma concentration, donc c'est compliqué, je perds de l'argent. Et en plus, je m'en veux parce que j'avais dit qu'il fallait que je reste concentré. Alors, la concentration, ça dépend de plein de facteurs. Je vais pas tous les détailler. Ça dépend de votre état de fatigue, ça dépend de l'intérêt que vous avez. Pour une tâche et pour une partie, ça dépend
De l'environnement.
de l'environnement, des substances que vous avez consommées dans la journée, ça dépend de tout un tas de facteurs. La vraie question sur ce sujet-là, c'est encore une fois, c'est quels sont les indicateurs que je peux mettre en place qui me renseignent sur mon état de concentration à un temps T et sur cette nécessité de faire une action, de mettre en œuvre un comportement qui va me permettre de récupérer des ressources attentionnelles. Ou alors un indicateur qui va me permettre d'éviter certains comportements qui vont me faire perdre de la performance, en gros. Et tout ça, ça passe par plein plein de choses. Ça passe évidemment par une hygiène de vie, ça passe par les connaissances sur la cognition qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, l'image qu'on pourrait prendre, c'est imaginer que vous deviez manager un coureur cycliste et que, en admettant, hein, ou un grand sportif, peu importe, et vous avez le choix. Vous avez le choix, ce qui n'arrive pas dans le sport, hein, vous avez le choix du moment où vous allez le mettre en compétition. C'est vous qui réglez le jour, l'heure de la compétition. Okay? Il est évident, si on est un peu malin, qu'on va, dans un premier temps, essayer de bien comprendre ce sportif, d'essayer de repérer les jours où il est dans les meilleures conditions, les heures où il est dans les meilleures conditions, on va regarder, tiens, si je lui donne une barre de céréales, est-ce que derrière il va être plus performant, etc. Vous allez créer les conditions pour que ce sportif soit performant et à minima, vous allez vous lancer dans la compétition, le mettre sur les rails de la compétition uniquement dans ces moments où vous avez repéré qu'il était performant. En fait, il faut être votre propre coach, votre propre manager. Il faut avoir à la fois ce regard en troisième personne, vu en troisième personne, sur vous, faire l'inventaire, voilà, de ce qui va favoriser votre concentration, au contraire de ce qui la perturbe. Et puis, vous allez privilégier les sessions de jeu dans ces zones-là, dans ces moments que vous avez identifiés comme étant les plus favorables à votre performance. Donc, vous voyez, tout ça, à la fois, ça implique une espèce d'observation, ça implique la mise en place d'indicateurs, ça implique la mise en place de routines, éventuellement, d'éléments qui vont vous permettre d'être dans cette zone favorable. Et en même temps, c'est ce qu'on disait au début, j'accepte pleinement, sans culpabilité, l'idée que je ne peux pas être concentré tout le temps. Alors, il y a des choses à faire qui permettent de travailler cette capacité de concentration. La concentration, hein, c'est la force de connexion entre vous et une tâche, évidemment, et la durée aussi de cette connexion. Il y a des petites choses à faire qui permettent de travailler cette capacité à se concentrer. Il y a d'autres choses aussi qui permettent de travailler la maîtrise de l'attention, le contrôle de l'attention. Cette idée que mon attention, elle doit au maximum être placée là où moi j'ai envie qu'elle soit et pas là où
Elle est happée par là où elle est
l'environnement,
attirée, quoi.
voilà, par des pensées, par l'envie de regarder YouTube, par la série qu'il y a juste à côté de l'ordinateur que j'ai envie de regarder. Voilà, on peut travailler tout ça. Et encore une fois, ici, il va y avoir des questions de prise de conscience pour mécaniquement ramener ce point, le focus attentionnel sur un point fixe pour être performant sur la tâche.
Exactement. Moi, j'aimerais insister sur cette notion-là. Donc, je pense que vous avez compris que, évidemment, c'est impossible de l'être tout le temps, que ce soit concentré. On a un peu mis la motivation de côté là. Hein. Le but, c'est pas de faire un cours théorique sur ça. Mais ça veut, attention, ça ne veut pas dire que vous devez non plus. C'est un équilibre vraiment à trouver entre être pas trop exigeant avec soi-même pour se martyriser de trop, mais pas non plus être trop soft avec soi-même et se transformer ça en se trouvant des excuses en disant oh, bah là, je suis déconcentré, je décroche, je check un peu WhatsApp, je suis sur Twitter. Non. Trouver le juste équilibre entre accepter la déclinaison, la baisse naturelle de votre concentration et de votre motivation. Mais apprenez aussi à vous dire, bon, là par contre, je suis en train de me laisser aller et il faut que je reprenne le contrôle. Peut-être pas immédiatement parce que vous n'en serez pas capable. Peut-être que sur le coup, c'est le moment de couper la session, d'aller faire une sieste ou d'aller vous aérer l'esprit. Mais de reprendre le contrôle plus général, comme tu l'as dit, en dézoomant à la troisième personne et vous observez vous-même, être votre propre coach et dire, bon, écoute, là je le sais, je bois trop, je mange pas bien. Je dors mal, mon sommeil, je me couche trop tard, je me lève trop tard, ou en tout cas il est irrégulier. Je ne fais pas de sport. Ce que j'appelle un peu des conditions méta, qui sont vraiment l'état de votre concentration de façon générale. Et constatez également que pendant vos sessions, il y a trop de facteurs qui à la fois vous déconcentrent, comme ça peut être dans l'environnement, mais à la fois vos pensées. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment que vous arriviez à trouver cet équilibre juste, comme je vous l'ai dit, en ne pas être trop dur avec vous-même, pas être trop soft non plus. Mais surtout, soyez actif. Parce que moi, ce que je constate, ça fait 12 ans que Kill Tilt existe, c'est que ça reste souvent un peu du blabla, tout ça. Et les gens disent, ah ouais, c'est vrai, il faut que je sois plus concentré, sans non plus être trop dur avec moi-même, c'est cool. Mais il faut appliquer les choses. Il faut concrètement essayer de faire des changements. Et donc, l'idée, aussi un autre fil rouge de la vidéo, ça va être tous ces aspects mentaux, ça doit vraiment se transformer en changement dans votre vie. Ça peut être mettre en place de nouvelles choses, ça peut être couper certaines choses, parfois juste arrêter certaines mauvaises habitudes, et déjà un pas énorme. Donc, vous l'avez compris, je pense. Tu
Voilà,
voulais rebondir.
yes. Ouais, non, très rapidement, effectivement, déjà, à la fin de cette vidéo, vous avez changé quelques croyances, c'est bien parce que c'est le premier pas vers le changement de comportement. Deuxième chose, en fait, on peut être exigeant vis-à-vis de soi, mais il faut placer l'exigence au bon endroit.
C'est ça, faut un équilibre.
Si l'exigence, c'est rester concentré 10 heures de suite, c'est pas une bonne exigence. Si l'exigence, c'est OK, je dois mieux identifier ces moments où je suis plus concentré, je dois faire ce petit travail de fond sur mon hygiène de vie, etc. Ça va être sain. D'accord? Faut pas
Exactement.
vous tromper d'endroit. Et c'est aussi c'est une idée qu'on va reprendre dans d'autres mythes qui sont importantes, une idée qui est importante et une idée qui malheureusement n'est pas véhiculée en fait dans la société, dans la culture, parce que il y a des images erronées de ce que c'est quelqu'un qui a un fort mental, etc., etc. Mais on y
On
reviendra.
va y venir, exactement. Exactement. Donc, très important, concentration, motivation, pour résumer, c'est impossible que ce soit au top tout le temps. Soyez réaliste là-dessus. Apprenez que ça fluctue, mais trouvez un bon équilibre qui vous correspond. Et juste pour finir sur les exigences, par exemple, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Par contre, vous pouvez tout à fait être très exigeant en vous disant, bon, habituellement, quand je lance une session de poker, je suis dans tel environnement avec, je sais pas, les réseaux sociaux ouverts, mon téléphone qui est connecté au réseau, j'ai mal mangé, etc. Vous pouvez être exigeant en vous disant, j'ai un objectif qui est dans un mois, par exemple, d'avoir changé mes routines, comme tu l'as dit, et d'arriver dans une session de poker en ayant déjà bien mangé, en ayant fait un petit échauffement, en ayant coupé mes réseaux sociaux et en ayant mis mon téléphone en mode avion. Et j'accepte que je vais peut-être pas tout le temps réussir, mais que je progresse petit à petit. Ok, donc il faut vraiment que vous essayiez, comme tu l'as dit, bien évidemment, de changer certaines croyances, visions des choses, parce que c'est un premier pas vers poser des actions différentes. Encore une fois, que ce soit mettre de nouvelles actions en place ou supprimer certaines actions qui étaient les vôtres et qui étaient évidemment néfastes pour votre environnement. On passe au troisième mythe, Adrien?
Ouais.
Allez, moi ça c'est un qui me tient particulièrement à cœur,
Ouais.
le mythe numéro 3. Ton préféré, Adrien, sera le mythe numéro 4. Moi, c'est quelque chose qui revient tout le temps et que j'ai, vraiment, j'aime pas, qui est que le fameux no pain, no gain, à savoir si on souffre pas, on ne gagnera pas, on ne sera pas successful, on ne réussira pas. Et il y a un peu cette idée qui est effectivement très véhiculée, qui est que pour réussir, pour être au top, il faut vraiment se faire mal, il faut souffrir. Un peu le parcours sacrificiel du héros qui quitte tout, qui se lève le matin, qui donne tout dans les exercices, dans la préparation, qui donne tout pendant la session, qui encaisse de la douleur et de la souffrance. Il se trouve que ça ne marche pas. Oui, il y aura une part d'effort à faire. Oui, vous, de toute façon, au poker, vous souffrirez naturellement pour plein de raisons. La variance, la difficulté, le fait de faire des erreurs, de s'en vouloir, le fait de ne pas comprendre et de bloquer sur des points théoriques et techniques. Mais il ne faut pas aller trop loin là-dedans. Je te laisse enchaîner, Adrien, sur ce point.
Non, alors, première chose à dire, effectivement, dans le processus d'apprentissage, tout simplement, il y a évidemment de la difficulté qui, en règle générale, entraîne des émotions négatives, en tout cas, font chuter les émotions positives. Et ça, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. C'est pas une condition sine qua non pour l'apprentissage, mais en règle générale, ça fait partie de l'apprentissage. Là, encore une fois, on va être dans l'acceptation, en fait, on va être dans la connaissance du processus d'apprentissage. Ok, quand je découvre quelque chose, ça génère des émotions positives, c'est nouveau, ça semble accessible. Ensuite, à un moment donné, je suis confronté à des difficultés. J'arrive pas à passer une limite, ou alors, tiens, j'arrive pas à améliorer mon temps d'une seconde si jamais je suis un sportif. Confronté à des difficultés, chute des émotions positives. Dans beaucoup de cas, ça crée de la frustration, de la
démotivation
tendance,
aussi. Hein,
voilà, de la tendance espoirs. À vouloir abandonner, exactement, des motivations, etc. Et puis, c'est là où il faut s'accrocher, et c'est là où le fait d'avoir passé ce petit mur, ces petits obstacles, que les émotions positives remontent, parce qu'on a le sentiment de maîtrise, donc confiance en soi, et on sait que la confiance en soi, c'est évidemment corrélé à la performance. Alors, quand je dis ça, je dis qu'une partie de l'histoire, parce que ce que je suis en train de dire là, tout simplement, c'est que oui, la souffrance peut faire partie du processus d'apprentissage, c'est pas forcément une condition sine qua non à l'apprentissage, mais on peut traiter ce que tu viens de dire, Simon, no pain, no gain, via un autre angle, qui est celui de qu'est-ce que je m'inflige comme... Quel degré de souffrance, est-ce que je dois m'infliger un degré de souffrance pour réussir, et si oui, quel degré?
Exactement.
Et là, là, pareil, culturellement, on a l'image de Rocky là, qui court jusqu'à cracher tous ses poumons, etc. Concrètement, un sportif qui est surentraîné, qui exagère dans l'entraînement, qui n'a pas un entraînement adapté, trop violent, trop éreintant, il risque tout simplement la blessure. Hein. Donc, cette image, moi, je trouve qu'elle est un petit peu erronée. Bien sûr qu'il faut de l'entraînement, bien sûr que l'entraînement, c'est pas toujours marrant, mais on peut très bien vivre l'entraînement. Je pense que, alors, prenons un mec comme Cristiano Ronaldo, qui est peut-être un exemple parfait là-dessus. Il aime s'entraîner. Il aime s'entraîner. Je veux dire, voilà. Donc, chez un type comme ça, c'est pas s'infliger de la souffrance que de s'entraîner. Par ailleurs, Cristiano
Ronaldo.
Ça ne
veut pas dire qu'il ne ressent pas de la douleur pendant l'entraînement. Ça, c'est très compliqué. Il y a aussi des pain addicts, tu vois. Il y en a qui presque aiment se faire mal à l'entraînement. C'est très complexe, hein, ces problématiques-là. Et là, on parle du top mondial, hein, aussi.
Non, puis là, après, on va faire la distinction entre douleur physique, douleur mentale. C'est un sujet qui n'est pas si simple à traiter.
Non, très complexe.
Cela étant, Cristiano Ronaldo, c'est un type qui a une connaissance du mental. C'est un type qui a une connaissance du physique telle que son entraînement est calculé et configuré pour lui permettre justement de tenir la distance, pour lui permettre des performances optimales le jour J. Donc, vous voyez, il n'y a pas ici cette idée de je m'autoflagelle, je m'inflige des souffrances énormes. Non, c'est C'est pas ça l'idée, c'est pas ça l'idée. Et surtout quand on prend l'entraînement concernant des tâches mentales, hein, c'est pas en vous forçant à rester, si on prend un exemple concret, c'est pas en vous forçant à rester 12 heures de suite à une table que vous allez progresser. Bien au contraire, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça, n'est pas très câblé et câblé pour ça, parce qu'il y a un moment donné, forcément, votre attention va chuter, vous allez avoir des émotions négatives qui vont entraîner du tilt, et au final, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous en vouloir, vous allez pester contre les autres, contre le poker, et est-ce que vous aurez progressé à ce moment-là? Pas vraiment, au final, pas vraiment.
Exactement.
Donc,
Ce qui est très délicat néanmoins, c'est qu'il y a des gens qui arrivent pendant des phases de 2-3 mois à effectivement jouer 12 heures par jour et à rester relativement performant, très performant. Ça peut être le cas d'athlètes dans le poker, de joueurs d'échecs ou même de chercheurs à très très haut niveau. Néanmoins, ça arrive rarement dans des phases de débutants, même si ça peut arriver. Et surtout, l'intensité qu'ils ressentent, elle est canalisée, on va dire, dans une grosse dynamique de plaisir, comme tu l'as dit. On prend
Et
par
voilà, elle est
exemple de
contrebalancée.
Cristiano Ronaldo et de Nadal. Ils kiffent faire ça, en fait. Ils kiffent
Bien
ce
sûr.
mode tunnel où leur vie tourne autour de ça, où il va y avoir que poker, 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 poker. Et donc, c'est quand même un équilibre délicat à trouver. Tu rebondiras en me disant ce que tu en penses. Parce que néanmoins, il faut trouver, moi j'appelle ça, vous verrez, c'est une des notions que je préfère parce qu'elle m'a beaucoup aidé personnellement et quand je la transmets en coaching mental ou dans des réponses aux joueurs, j'ai l'impression que ça les aide pas mal de comprendre ça. Donc comme je dis, je le développe pas mal dans la masterclass, cette notion d'effort juste. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, aller à l'entraînement, ça n'est pas tout le temps si rigolo que ça. Parfois, il y a l'effort, que je pense être un effort juste, qui est le petit coup de pied au cul pour démarrer une tâche qui est peut-être pas celle qu'on a le plus envie de faire aujourd'hui. Elle est à distinguer très fortement, à mon sens, de la situation où on se met bien plus qu'un coup de pied au cul, c'est-à-dire on fait un effort démesuré pour démarrer la tâche. Même 20 minutes après avoir démarré la tâche, on n'en peut plus, on ne prend aucun plaisir, on n'aime pas ce qu'on fait, on a déjà envie de passer à autre chose. Et quand c'est fini, on redoute déjà la prochaine session. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent chez les joueurs de poker pour beaucoup de causes, notamment c'est un mix de burn-out et de fatigue psychique et émotionnelle accumulée par rapport à un bad run, tout simplement, où ça devient très dur quand même de s'asseoir et de perdre et de tilter et d'être malheureux et de s'asseoir et de perdre. Et tu sais, où là, on peut faire une overdose de poker. Donc encore une fois, il faut que vous trouviez cet effort juste qui est, ok, je mets un petit coup de pied aux fesses pour faire une tâche saine qui va dans mes objectifs et au fond, une fois que je me suis mis ce coup de pied aux fesses, bah, c'est bon, je suis lancé et ça me plaît. Et là, feu vert, entre guillemets, ça fait partie de votre boulot parfois de vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Par contre, si à un moment, votre plaisir est inexistant avant de faire la tâche, au début de la tâche, pendant la tâche et qu'après la tâche, vous dites oh, heureusement, la session est finie, vite, vite, je m'éloigne du. Là, c'est que ça coince pour plein de raisons. Et il faut que vous fassiez très attention à ça parce qu'au poker, ça peut vraiment mener à des. Enfin bon, bah, moi j'en ai assisté à beaucoup, mais à des burn-out très violents dont on n'est pas forcément conscient. Et il y a des joueurs, moi j'en ai vraiment vu des dizaines, hein, des tonnes, qui se forcent à jouer, ils savent même plus pourquoi. Ils se disent, il faut que je joue, il faut que je travaille. Et genre, en fait, ils sont quasiment en dépression latente pendant 2-3 mois. Et ils refoulent souvent leurs émotions, hein, comme tu l'as dit. Et donc je rebondis d'ailleurs, tu l'as dit au début, c'est pas une bonne stratégie d'enfouir et de bloquer et de refouler ces émotions. Pourquoi? Bah justement, le moment où elles ressortent, on explose. Et là, on peut faire un burn-out qui signe l'arrêt de votre carrière poker ou quasiment, hein, qui vous écœure du jeu à tout jamais. Je refais une parenthèse, je vous conseille, et je te conseille Adrien, je pense pas que tu l'aies vu, sur Netflix, il y a un documentaire qui est incroyable, je vais retrouver le titre vite fait, ça s'appelle Untold. C'est sur l'histoire de Mardi Fish. Ouais, ça s'appelle Untold, je crois, tout simplement ATP Untold. C'est sur Mardi Fish qui était dans l'ombre de Andy Roddick, qui était le numéro 1 de tennis américain et qui était 8e mondial. Et Mardi Fish, à un moment, s'est mis un violent coup de pied au cul, où il a souffert énormément pendant des années pour atteindre le top niveau, sauf qu'il a explosé en vol. Et c'est un des premiers qui a fait un coming out sur le stress et l'anxiété dans le sport qui devenait complètement contre-productif. Donc je vous conseille vraiment ce documentaire parce que c'est bien beau de mettre en avant Cristiano Ronaldo ou Nadal, Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en background, on ne voit pas comment leur tête elle est construite, ce qui les anime, on ne voit pas leur quotidien, le soutien qu'ils ont, l'anxiété qu'ils subissent ou pas. Et si on veut tous coller à un modèle trop exigeant en s'infligeant trop de souffrance, on peut exploser en vol et ça devient effectivement totalement contre-productif. Ne prenez pas tout ce que je dis, bien évidemment, encore une fois, pour une ode à l'oisiveté, à se laisser aller. Non, si vous avez des objectifs ambitieux, ça, il faudra vous infliger à un moment un entraînement assez soutenu. Mais vous pouvez totalement monter en puissance de façon raisonnable sans passer de 0 à 100 et exploser en vol, en quelque sorte. Voilà, je te laisse rebondir.
Non, non, mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est encore une fois qu'on ne doit pas se tromper d'objectif et pas et mettre l'exigence au bon endroit vis-à-vis de soi.
Ok. Eh bien, écoutez, pareil, dans les commentaires, si vous avez des questions là-dessus... N'hésitez pas, mais gardez en tête que si vous jouez au poker, que ce soit de façon évidemment plus ou moins amateur, ben, essayez de kiffer, vous faites ça de façon amateur. Si à un moment vous voulez vraiment arrondir vos fins de mois ou vous mettre dans des conditions pour devenir pro, monter une bankroll et peut-être même un jour passer pro, ben, j'espère que ce sera plus de plaisir que de douleur. Oui, il y aura de la douleur et à un moment de la pain, de la souffrance, mais c'est censé être agréable, on n'a qu'une vie. Si à un moment vous vous engagez dans un truc qui va être très exigeant sur vous, il faut que la balance... douleur, investissement, effort soit assez équilibré avec le plaisir que vous en retirez, la mission dans laquelle vous vous engagez, le sens que ça a dans votre vie et vos objectifs, quoi.
En fait, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup d'indicateurs, ces indicateurs qui vous renseignent quand votre concentration diminue, ces indicateurs qui vous renseignent quand vous êtes en train de tilter. Mais en fait, cet indicateur, il est finalement assez simple à résumer. Il s'appelle l'émotion. L'émotion, ça vous renseigne sur ce que vous êtes en train de vivre et la manière justement dont vous interprétez une situation. Vous devez à la fois être à l'écoute de ces émotions et apprendre à les utiliser comme indicateur, comme déclencheur de « il faut que là, j'arrête, il faut que là, je revoie mon objectif ». Vous voyez, et c'est en fait, quand je parle de rediriger l'exigence, je parle de ça, vous mettre une exigence, non pas dans la quantité de souffrance que vous devez vous infliger, mais exigeant dans… ma capacité à comprendre l'émotion, à l'utiliser correctement pour la mettre au service de ma performance et savoir à quel moment dans le processus de progression, dans mon processus de jeu, dans ma vie de joueur, je dois remettre en question un certain nombre de choses, changer une habitude, faire évoluer une habitude, arrêter une habitude, mettre en place un nouveau comportement, redéfinir un objectif pour me remettre dans une zone où je vais pratiquer un bon jeu et le faire dans des conditions où le bien-être rendra la performance pérenne. Hein, parce que le modèle de la performance, c'est pas uniquement je fais juste, j'atteins mes objectifs, je me donne les moyens et je fais les choses de manière efficiente. Le modèle de la performance, votre modèle mental de la performance doit inclure pleinement cette idée de la pérennité de la performance. Et ça passe par le bien-être. Et ce bien-être passe par tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis le début de cette vidéo et qu'on Exactement. Évoque aussi dans la masterclass.
Bien-être n'étant évidemment pas équivalent à « je n'ai que du plaisir 100% du temps maximum ». Il y aura un moment des petits coups de pied aux fesses à mettre, voilà. De l'effort à supporter, mais dans une jauge raisonnable que vous pouvez augmenter d'ailleurs avec le temps. Moi, le premier, je ne sais pas si toi, ça fait pareil, Adrien. Je fais aujourd'hui des tâches qui me paraissent assez normales, comme me lever tous les jours à 7h et m'endormir vers 23h, ce qui m'aurait demandé un effort démesuré à l'époque. Mais graduellement, vous pouvez totalement changer vos habitudes et que des efforts qui vous paraissent incroyables à l'époque fassent plus ou moins partie de ce qui devient votre nouveau standard. Mais pareil, moi je vois souvent ça, c'est le fameux truc des résolutions du jour de l'an, les gens veulent passer de 0 à 100 en 2 semaines. Et du coup, ils disent « ouais, mais no pain, no gain ». Alors ils forcent pendant 2-3 semaines, c'est évidemment insupportable. Ils arrêtent au bout d'un moment et puis ils n'ont plus du tout envie de se refixer un objectif aussi exigeant et ils abandonnent tout. Alors que celui qui va, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Celui qui va graduellement, certains vont plus vite que d'autres certes, mais a beaucoup plus de chances d'avoir une performance pérenne comme tu l'as dit. Je passe,
Tout à
oui,
fait. Si
vas-y.
on fait, si on fait, on peut faire l'analogie avec effectivement le régime, quoi. Je
Oui.
rebondis sur les résolutions du jour de l'an. C'est exactement le même principe. Et c'est la raison qui fait que 95% des
J'allais
régimes
dire.
échouent.
Et ça, c'est une vraie data, hein. C'est pas une blague en l'air. Il y
Non,
a
c'est
énormément
sûr.
d'études. 95% des régimes drastiques, rapides dans le temps, échouent.
Voilà, parce
C'est
que
incroyable.
le cerveau se défend, hein, il est constamment dans la frustration, dans le déplaisir, dans la difficulté, il pète un câble et il va lui chercher le cerveau à revenir à un état stable, à un état d'équilibre émotionnel. Et pour ça, voilà, il va vous éloigner et vous donner la volonté d'abandonner cette situation qui génère trop de difficultés, trop de frustration.
Et
Maintenant,
trop
si vous
d'un
êtes
coup.
voilà, et trop d'un coup surtout, effectivement, dans le cadre d'un régime, l'idée c'est de diminuer le pourcentage, enfin de réduire d'un faible pourcentage le nombre de calories.
Mais dans tout,
Peut-être que tu
Adrien,
couperas là
si tu te mets.
ce que je suis en train de dire.
Non, mais c'est pareil dans tout. Si tu veux te mettre au sport et que tu faisais rien, c'est très bien de bloquer 2-3 créneaux par semaine, commencer à faire un footing tranquille. Une fois que tu as ancré cette habitude, tu montes graduellement et puis voilà. Bref, on enchaîne sur le mythe numéro 4, qui est donc ton favori, Adrien, qui est qu'il faut absolument, pour réussir au poker, se construire un mental d'acier. Je répète vraiment cette expression de mental d'acier qui est très néfaste. Je te laisse développer ça, Adrien, du coup.
Écoute, ça va dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. La société, la culture, certaines personnes véhiculent une image erronée de ce que doivent atteindre les personnes comme état cible pour être performants, pour être bien dans leur vie, ou que sais-je. Et l'expression, lui, il a un mental d'acier, un mental de fer, Iron Mind, ou je ne sais pas quoi,
Il est
c'est quelque chose
imperturbable.
imperturbable, etc. Tout ça. C'est des choses aussi qui sont véhiculées dans les films, hein. On parlait de Rocky tout à l'heure ou ce genre de choses. Mais c'est une image très clairement erronée de ce qu'il faut arriver à viser comme mental pour être performant et pour être serein. J'ai dit à Simon tout à l'heure, je ne le ferai pas finalement. Que le meilleur exemple qu'on puisse donner aux personnes pour bien comprendre tout ça, c'est tout simplement une poésie, une fable en l'occurrence, une fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Je vous invite à lire cette petite fable pour comprendre bien là où je veux en venir. Et ça résume tout en fait, hein.
Bah on peut la résumer très vite, mais l'idée c'est que le
Vas-y.
roseau, il plie mais ne rompt pas, alors que le chêne, il paraît très solide, très solide, très solide. Puis au moment, à un
Où il y a la
moment, il y a une
tempête,
tempête qui est trop grosse, il a trop encaissé, il se déracine, il disparaît, il meurt. Alors que
il
le
déracine, il
roseau, ben,
disparaît.
il plie, il est résilient, il plie quand il faut et il sait se relever à l'infini en fait. Et c'est effectivement très pertinent pour ce dont tu parles.
Voilà, donc ça va à l'inverse totalement. L'image du roseau, elle est totalement à l'inverse de l'image de l'acier très dur, très fier, très. c'est ça qu'il faut viser. Un mental. Mais très clairement, et quelles que soient les disciplines, là on parle du poker, mais les grands sportifs, les gens qui font des métiers très compliqués, violents, etc., un mental d'acier, enfin un mental solide, c'est un mental résilient. C'est un mental où on va développer cette forme d'acceptation de il peut se passer des choses pas cool sur le plan émotionnel, je l'accepte, je l'accepte. Très très important, et je travaille dans la perception et l'interprétation de cette situation pour rebondir, pour faire en sorte que cette situation-là soit émotionnellement acceptable, pour faire en sorte que cette situation-là soit me permette d'un point de vue émotionnel de rebondir, d'aller au-delà. C'est ça, et ça ne veut pas dire j'ai une espèce de blindage autour de moi, ça n'existe pas en fait, hein, où les balles ne pénètrent pas, etc. Ça n'existe pas. C'est encore une fois une vision irréaliste de ce qu'il faut chercher à développer comme mental pour faire face aux situations de poker. C'est totalement irréaliste et ça crée cette double peine. Hein, encore une fois, c'est tiens, je suis à ma table de poker, je commence à être pas bien parce qu'il s'est passé un événement pas cool, donc je vais avoir le poids de cet événement qui génère cette émotion automatique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, oulala, mais attends, je suis censé avoir un mental d'acier et là, ça m'atteint alors que ça ne devrait pas
C'est ça,
m'atteindre.
je devrais pas ressentir ça, je devrais pas
Voilà,
faire ça.
exactement. Et ça, c'est hyper contre-productif. Donc moi, j'en veux beaucoup, finalement, à tous les éléments comme ça, toutes les acteurs, les entités culturelles qui, en France et à l'étranger d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi beaucoup vrai aux États-Unis, qui véhiculent cette image erronée de ce mental qu'il faut arriver à développer pour être bien. Non,
Les
c'est
sociétés.
pas.
Excuse-moi, je suis désolé d'avoir interrompu. Les sociétés
Je t'en prie.
asiatiques, c'est incroyable aussi. Hein. Corée du Sud, Japon, où vraiment le modèle, c'est le mec qui dort pas, qui dort que 5 heures par nuit et qui passe sa vie à se tuer au travail. C'est ça qui est littéralement glorifié, quoi. Donc c'est
Quelqu'un qui est,
très, très
tout à
toxique.
fait, quelqu'un qui est performant, c'est quelqu'un voilà, qui est résilient, c'est quelqu'un qui va accueillir, accepter ces déstabilisations, ce relief que génère la vie, que génère la situation de poker et qui va arriver tout en absorbant ces variations de la route à rester justement sur la route. On peut prendre l'exemple d'une voiture, c'est-à-dire qu'une voiture qui a des amortisseurs hyper durs, hyper costauds, etc., tu la mets sur un chemin de campagne, elle va pas d'amortisseur, elle va sortir de la route, au contraire. Et puis ça va pas être hyper agréable de conduire dans cette bagnole. Une voiture qui a des amortisseurs très souples, pas trop non plus, bien sûr, mais amortisseur souple, elle absorbe les chocs et elle permet à la voiture de rester sur la route. C'est comme ça qu'il faut voir les choses,
Exactement.
hein.
Très bien.
Donc éloignez-vous voilà, de cette vision totalement erronée de ce qu'est une personne forte, une personne. Voilà. Mettez de côté le mental d'acier, mental de roseau.
Très. Ouais, non, mais cette métaphore des amortisseurs est excellente, je pense. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait oui, mais enfin, quand même, pourquoi alors Nadal, quand il fait, une double faute ou qui rate un coup droit que normalement il ne rate pas dans un moment clé, que ça lui fait perdre le set dans un point crucial. Ah, on en voit bien qu'il a un mental d'acier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que je le précise, tu appréciais que tu bossais avec des entreprises dans le privé, que tu faisais un peu de coaching, tu as bossé avec des athlètes de très 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 haut niveau qui ont fait de équilibristes champions d'Europe, avec des gens qui ont été très très haut placés aussi dans la boxe et dans le football. Donc tu parles en connaissance de cause et avec des athlètes qui t'ont bien témoigné de ça, mais on a quand même cette image où on se dit, bah attends, moi quand même, je vivrais ça, je pèterais un câble. Lui, il vit la même situation, il pète pas un câble. Donc qu'est-ce que tu répondrais à ça? Les gens vont dire, bah attends, il a bien un mental d'acier quand même. Qu'est-ce qui se passe alors?
Parce qu'en fait, ils ont juste appris à être résilients dans ces situations-là. C'est-à-dire que un mec probablement comme Nadal ou peu importe, hein, il y a eu à un moment donné dans leur parcours sportif des situations où justement ils ont pété des câbles. C'est juste qu'ils ont fait un
Voilà.
travail là-dessus. Ils ont été accompagnés aussi mentalement pour tout ça.
Voilà, c'est ça qui est
Et
important.
voilà, l'effort, ils l'ont mis non pas dans le fait je dois mettre une carapace d'acier dans ces situations et point barre. Hein, c'est OK, comment j'accepte ce truc-là, comment je rebondis. Je veux dire, toutes les équipes dans le sport, tous les joueurs pourront témoigner toujours de la même façon, même tous les joueurs et tous les sportifs. Je suis persuadé que tu interroges un joueur de poker de très haut niveau, il va te dire, voilà, ce que j'ai travaillé, c'est surtout ma capacité à réguler l'émotion à ce moment-là et non pas alors, si vous voulez matérialiser dans votre tête l'idée que le blindage, c'est être capable de réguler, d'accepter, etc., libre à vous, mais la compétence qu'il faut développer, c'est celle-là, c'est j'accepte et je deviens résilient. Je suis capable très rapidement de rebondir là-dessus. Pas dire que je ressens rien à ce moment-là quand je rate
Exactement.
mon service. Ça veut dire que cette sensation-là, je sais en faire quelque chose et je sais faire en sorte que elle n'altère pas ma performance. C'est un travail. Et ça ne veut pas dire que je m'empêche de ressentir quelque
Voilà.
chose à ce moment-là.
C'est ce que tu disais. Moi, je veux mettre un gros focus là-dessus parce que c'est Stéphane Matheux, pour ceux qui voient qui c'est, hein, le coach du Team Winamax, qui est très smart aussi sur ces questions-là. Il l'évoquait dans la tête d'un pro, je ne sais plus de quel joueur. Oui, il expliquait que Federer, c'est connu de toute façon, en plus, au moment où on tourne cette vidéo, Federer vient de prendre sa retraite. Il avait d'énormes problèmes de gestion du tilt, en quelque sorte, vraiment, c'était très bloquant dans sa carrière. Et ce qui l'a aidé, c'est pas de développer le mental d'acier, c'est quand il vivait cette frustration, il avait fait un travail de fond. Il avait fait un travail qui lui permettait en situation de réguler son émotion, de calmer certaines pensées toxiques, de les remplacer par des pensées intéressantes, de se dire « Ok, s'il se passe ça pendant le match, que machin, d'habitude j'aurais jeté ma raquette, là je vais me retourner, regarder mon coach, respirer. » Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait la résilience, c'est pas un mental d'acier qui prend le choc et il se passe rien. Il le prend et comme tu l'as dit, il l'absorbe et il rebondit, comme cette métaphore de l'amortisseur. Pourquoi l'acier est une très mauvaise métaphore? Parce qu'en fait, l'acier, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il se passe rien, et jusqu'au moment où il casse. Et une fois que c'est cassé, c'est terminé, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment que vous appreniez à faire ce travail de fond, et quand vous avez l'impression que quelqu'un est imperturbable, qu'il a un mental d'acier ou quoi, précisons quand même que c'est vrai qu'il y a des gens qui, de nature, hein, ont une régulation émotionnelle plutôt stable. Bah voilà, à 18 ans, on n'est pas tous plus sensibles sur les mêmes choses, certes, mais il y a un vrai travail de fond à faire pour accepter ses émotions, y trouver des réactions différentes, internes, et des comportements différents, externes. Ça se travaille très concrètement avec des coachs, avec des mises en situation, avec des hypnothérapeutes très compétents sur la question, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de bullshit aussi dans l'hypnothérapie, donc faites attention. Mais il y a vraiment toutes ces stratégies qui peuvent vous aider à, comme tu l'as dit, je ne vais pas le répéter 50 fois, absorber ces chocs, y réagir différemment. Mais pas faire semblant qu'on est imperturbable, qu'on ressent rien, c'est très très toxique, vous risquez d'exploser en vol. C'est bon pour moi, si tu veux ajouter quelque chose, vas-y, et puis on passe au mid 5.
Non, mais effectivement, juste conclure sur le fait qu'il y a des stratégies de régulation des émotions qui passent en partie par les choses qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Et donc, il y a des choses très concrètes à faire.
Exact. Mythe numéro 5, et le dernier de cette vidéo, c'est... Moi, c'est peut-être en fait celui qui me tient le plus à cœur. J'avais dit que c'était le 3. Peu importe. Ça me parle énormément. C'est « je suis comme je suis et je ne pourrais pas changer ». Ça me fait penser, tu venais de parler de Rocky. Je crois qu'il dit tout le temps à Adrian « mais on ne se refait pas, on ne peut pas changer ». Je me trompe peut-être, ça fait longtemps que je n'ai plus vu Rocky. Quand j'étais petit, j'étais littéralement fan. Mais je crois qu'il est sur le lit d'Adrian qui est malade ou qui vient d'accoucher, peu importe. Si vous avez l'extrait, mettez-le moi. Je crois qu'il dit à Adrian « on ne se refait pas » et tout. Bon, peu importe. Donc voilà, il y a cette grosse idée que bon, en gros, c'est bien beau ce qu'on dit, mais on est comme on est, voilà, on peut pas changer tant que ça, on peut faire quelques petits ajustements, mais bon, voilà, moi je suis un sanguin, moi je suis un flemmard, moi je suis un hyperactif, moi j'ai jamais été discipliné et structuré, je pourrais pas l'être, ça c'est pas pour moi la méditation, le sport j'ai essayé, j'y arriverai pas, etc., etc. Donc, ce qui revient souvent au poker, c'est le côté, moi hein, j'ai vraiment l'impression, c'est j'ai jamais été capable de structurer et travailler mon jeu de façon efficace, donc ça sert à rien que j'essaye, puis j'ai essayé vite fait, j'y arriverai pas. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est assez paresseux de se considérer paresseux, en fait. Si on creuse plus profond, il y a souvent des problématiques de motivation, d'objectifs, de plaisir, de mauvais équilibre entre nos tâches dans une semaine qui font que bah, les moments où on joue au poker, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de ressources à y consacrer. Et donc voilà, moi j'aimerais que tu réagisses là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là qu'on peut confondre à la fois notre personnalité profonde avec la façon dont elle se manifeste? Alors, concrètement dans notre vie par des habitudes qu'on a mis en place ou dont on a hérité d'ailleurs sans jamais y réfléchir. On peut se coucher tard et faire la fête et boire beaucoup sans qu'on ait évidemment fait ça consciemment. Puis on se dit voilà, moi je suis comme ça, je ne vais pas pouvoir changer.
D'abord, un petit éclairage théorique sur ce qu'on appelle le trait de personnalité. Le trait de personnalité, c'est une manière de percevoir le monde et de réagir au monde. Le trait de personnalité, c'est ça. Ce trait de personnalité, il va se construire progressivement chez un individu. Il y a des facteurs un peu génétiques, mais il y a également des événements dans notre vie qui vont forger cette manière de percevoir le monde, d'interpréter les événements qui se passent au cours de la vie, et puis cette manière d'y réagir. Donc un trait de personnalité, c'est ça. En psychologie, on considère quand même qu'un trait de personnalité, ça fait partie des choses les plus stables qui soient, les indicateurs les plus stables dans la psychologie. On
Qu'est-ce
a
que,
des échelles.
pour ceux qui voudraient savoir, c'est quoi un trait de personnalité? Je ne sais pas si tu
Ah ben.
conseilles des choses simples pour définir ça. Je sais que le test du Big Five essaye de définir ça
Oui, alors
scientifiquement,
voilà,
c'est
t'as
pas mal en
plusieurs.
débat, mais comment on pourrait dire c'est quoi un trait de personnalité déjà, pour en
Ben
citer deux ou trois connus?
c'est ce que je viens d'évoquer vraiment. C'est une manière de percevoir, d'interpréter le monde, d'interpréter les événements et une manière d'y réagir.
Oui, mais
C'est ça.
prends-en
Hein.
un concret, par exemple,
Alors,
disons.
je vais prendre. Effectivement, y a des échelles, y a des tests qui ont été mis au point par par les chercheurs pour mesurer
Voilà.
c'est construit un peu théorique. Donc, tu l'as cité, l'échelle du Big Five pour voir dans quelle catégorie tu te trouves. Moi, je vais prendre tout simplement le trait de personnalité anxieux parce que c'est un trait de
OK.
personnalité sur lequel j'ai pas mal bossé, que j'ai beaucoup pris en compte dans dans mes travaux de recherche. Le trait de personnalité anxieux, c'est une tendance qu'a l'individu à interpréter son environnement comme menaçant et d'y réagir par des émotions négatives, par des comportements où on se dévalorise, où on va éviter la situation, où on va interpréter encore une fois de la menace. S'il est vrai de dire qu'on a déjà tous vécu un état d'anxiété dans sa vie, hein, parce qu'on a eu des partiels, des concours, des examens médicaux, etc., etc. En revanche, il est faux de dire qu'on a tous un trait de personnalité anxieux. Il y a des gens qui ont tendance à ressentir plus souvent, plus fréquemment, donc et de manière plus intense, des états d'anxiété. Hein. Et ça, c'est parce qu'ils ont un logiciel, si tu veux, dans leur tête, qui interprète les choses et qui les fait réagir d'une certaine manière à ces choses, à ces événements, à ces situations de la vie. Donc, et ça, c'est très stable. Ça se construit encore une fois suite à nos expériences, suite à notre éducation, à ce qu'on a vécu à l'école, à tous ces événements de vie. Et c'est très stable. Et ce qui fait changer un trait de personnalité tel que je l'entends là maintenant, moi, c'est en règle générale des événements. C'est la maturité, c'est. Les prises de conscience. Il y a des travaux qui montrent que, y a une publication dans une revue qui est scientifique, qui est très reconnue, Psychological Bulletin. Il y a une publication qui, une méta-analyse, une analyse d'analyse d'analyse, enfin, voilà,
Enfin,
une
qui
étude.
compile plein de travaux de
Voilà,
recherche et qui
merci.
en fait la synthèse,
Exactement.
quoi,
Tout à
en
fait,
quelque sorte.
méta-analyse. Et il montre que, avec un accompagnement adéquat, il est possible de faire évoluer certains traits de personnalité, dont le trait de personnalité anxieux que j'évoque.
Et aussi, je crois, par exemple, et ça c'est vraiment très important et je veux rendre tout ça concret. Je suis désolé une fois de plus d'interrompre.
Non,
C'est
non, vas-y, vas-y.
un de mes gros défauts, un de mes gros traits de personnalité d'ailleurs. Mais il y a ça aussi, je crois, pour l'être plus ou moins introverti, extraverti. Donc n'oublie pas, c'est un spectre, hein,
C'est la même
évidemment.
chose. Oui.
Ouais, oui, c'est vrai. On va mesurer par exemple l'anxiété. On va dire de 0 à 100. Hein, il y a un spectre. Alors si vous êtes dans le cinquième pourcentile ou quoi. Et évidemment, quand Adrien dit que ça peut changer, c'est un long travail de fond, souvent avec un accompagnement, jonché d'événements marquants dans votre vie auxquels qu'on réinterprète différemment, qui nous font prendre du recul et tout et tout. Et par exemple, alors qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que des pratiques de thérapie, par exemple en accompagnement avec du sport, de la mindfulness, un travail en cognition, comportementalisme, peuvent accompagner aussi ce changement, mais ça peut pas nécessairement être forcé si l'individu ne le souhaite pas, comme on prendrait un médicament, quoi. On peut pas du jour au lendemain
Alors,
changer du tout au tout, quoi.
là, on va revenir encore à une idée. Enfin, c'est un peu délicat ce sujet. On va
C'est
revenir
très vaste
déjà.
surtout.
C'est très vaste. Et puis, on va revenir à une idée qui est notre fil rouge, qui est encore une fois l'acceptation. Très clairement, hein, plus on veut lutter contre quelque chose en matière de cognition, plus cette chose s'installe. Plus je suis en colère et je me dis, il faut surtout pas que je sois en colère, plus je vais être en colère. Si je vous demande là, je vous interdis de visualiser un ours blanc dans votre tête là maintenant, vous allez voir cet ours blanc. Donc il y a ce principe-là. Donc encore une fois, on est dans cette idée qu'on est dans l'acceptation. Ok, je suis comme ça. L'effort qu'il va falloir fournir à ce moment-là, alors, on accompagne les gens en psychothérapie sur ces traits de personnalité à partir du moment où ça devient handicapant. Hein. On est tous plus ou moins anxieux, on a tous plus ou moins un trait de personnalité anxieux, mais ce trait de personnalité anxieux, si je prends cet exemple, n'est pas forcément pathologique. Hein. On peut arriver très bien à
Oui,
vivre
c'est
dans sa
logique
vie. Hein.
d'être anxieux si on a des tests pour un cancer potentiel que le médecin
Oui,
fait
mais
des analyses. C'est
indépendamment.
logique de se sentir anxieux. Mais si c'est chronique et handicapant, paralysant, là c'est autre chose, quoi.
Ça peut être chronique. Il y a encore une fois des gens qui ont un trait de personnalité anxieux élevé, mais qui ne sont pas forcément dans le versant pathologique et qui peuvent très bien arriver à vivre avec. Okay? On va intervenir sur le plan psychothérapeutique à partir du moment où ça devient vraiment un frein très fort social, un état de souffrance très élevé. Mais en dehors de ça, on peut tout à fait accepter d'être un petit peu anxieux. Il y a quelques avantages à être anxieux quand même. J'aime bien réhabiliter des
Bah
fois
oui.
l'anxiété en tant qu'émotion parce que,
Permet d'être prudent notamment,
ben
potentiellement.
voilà, autant j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des travaux scientifiques qui montrent que la colère et la frustration augmentaient la prise de risque, la tristesse aussi d'ailleurs. Autant l'anxiété, c'est aussi un truc qui nous permet de prendre moins de risques dans certaines situations. Alors évidemment, si ça devient trop exagéré, c'est aussi passer à côté de certaines opportunités et dans certains cas, ça peut poser problème. Mais bon, voilà. En tout cas, si on revient à nos moutons, l'acceptation, c'est important. Et il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui et les thérapies cognitivo-comportementales de dernière génération, elles travaillent beaucoup sur cette acceptation parce que c'est la condition sine qua non pour qu'il se passe quelque chose après. Rappelez-vous, on s'est dit tout à l'heure, si j'accepte pas que je puisse avoir des tilts, alors je serai moins en mesure de les identifier pour les réguler et sortir de cette zone-là. Trait de personnalité, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce qui va être intéressant sur ce volet-là, c'est deux choses. La première, c'est être capable de créer les conditions au changement. Et ça passe beaucoup par des aspects sociaux, par des aspects de partage, par des aspects de je me mets dans des situations de prise de conscience finalement. Et si vous regardez cette vidéo, c'est déjà un pas intéressant que vous faites, hein, pas très bien. Et puis, il y a aussi, je distingue un comportement que je peux mettre en place plus ou moins régulièrement selon certaines périodes. Distinguer ce comportement du trait de personnalité, c'est pas forcément toujours corrélé. Et il sera beaucoup plus facile d'agir sur un comportement que sur un trait de personnalité. Je veux dire, voilà.
Sacré, exactement.
Tout le travail de Kill Tilt de Simon sur ces aspects-là vous aidera. C'est-à-dire comment est-ce que, encore une fois, j'interprète les choses, je configure mes objectifs et mes comportements pour avoir un contexte et des actions dans ce contexte plus saines.
Moi, ça me donne envie de rebondir un peu sur, encore une fois, du très concret et la mise en place d'habitudes. Vous pouvez tout à fait être comme moi, je l'étais, quelqu'un qui naturellement a beaucoup de mal à être discipliné. J'avais un réel problème que j'ai identifié quand je pense j'avais 15-16 ans et qui m'a suivi, qui me suivra peut-être un peu toute ma vie, mais qui est resté problématique, on va dire, jusqu'à mes 24 ans, quelque chose comme ça. Qui était que j'avais beaucoup de mal à faire quelque chose dont je savais que c'était bon pour moi, et que j'avais pas envie de faire, ou j'avais pas un élan pour le faire, voire je m'imaginais le faire, et je voyais de la friction. Donc je me considérais être quelqu'un de pas carré, pas structuré, pas discipliné à l'arrache. Je me couchais très tard, j'avais pas d'emploi du temps, je me fixais des objectifs que je tenais pas, je me disais bon c'est pas grave, demain matin enfin ce sera le bon jour, et puis ça tenait 2-3 jours, j'y arrivais pas, etc. En faisant un travail, ma personnalité n'a pas changé en fait, au fond. J'ai à peu près toujours les mêmes tendances et aversions envers certaines choses, mais par contre la façon que j'ai de manifester mes actions au quotidien a totalement changé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'intéresser à ça en profondeur et je vous invite à le faire évidemment, comme dit Adrien, ces premières prises de conscience en vidéo peuvent l'être. Mais surtout, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du changement. Et même si j'aurais peut-être toujours un peu du mal, des fois, me, comme on dit, mettre un coup de pied au cul, la force de l'habitude avec un environnement intéressant, avec un travail sur mes croyances, sur ma façon de voir les choses et l'environnement que je me crée, les lectures dont je m'inspire, les podcasts que j'écoute, me nourrissent, me transforment petit à petit. Et j'ai, très progressivement, on commence à, par exemple, se lever plus tôt, commencer ses sessions de poker un peu plus tôt, se dire, bon, bah, d'habitude, j'ai tendance à l'arrêter quand j'ai beaucoup de joueurs de poker. Tu vois, Adrien me disent, bah, moi, j'ai une grosse aversion au risque,
Ouais.
un trait très connu. Qu'on a pas mal bossé ensemble en plus dans le cours en Master 2 justement. Et ils disent, bah voilà, moi je déteste perdre, mais ça devient pathologique au point que dès que j'ai une session de poker assez gagnante, je joue plus par peur de tout perdre. Et ça me crée beaucoup d'anxiété quand je continue de jouer aux tables le lendemain parce que j'ai peur de reperdre ce que j'ai gagné la veille. Ou par exemple, sur le mois, je suis gagnant de 500 euros, je suis joueur amateur, c'est super. Ah, je joue plus, j'ai peur de tout reperdre. Ah, ça, moi, c'était typique ça. Et bien finalement, par la force de l'habitude et un travail de fond, cognitif, comportemental, etc., on va se pousser un peu plus loin par un effort juste, pas encore une fois, on passe pas de 0 à 100, et on va un peu plus loin à chaque fois, et finalement, on se transforme. Alors, quand on se transforme, notre personnalité profonde ne change pas nécessairement, encore que elle va pouvoir évoluer avec le temps, mais on a vraiment changé la manifestation des choses. Je te prenais en off avant qu'on recorde cette vidéo l'exemple de personnes qui étaient toujours aussi timides après 20 ans, qui ressentaient toujours cette anxiété sociale face à une prise de parole en public, mais qui avaient mis en place des stratagèmes et des habitudes qui leur permettaient de plus être paralysées et de prendre la parole en public de façon efficace. Et une fois qu'elles étaient en train de parler en public, cette anxiété pouvait disparaître. Et il n'y avait plus ce blocage qu'il y avait. Donc c'est des gens qui vont peut-être toujours après être durs avec eux-mêmes et dire « Oh là là, c'était une catastrophe ma prise de parole », qui vont encore avoir peur de la prendre, mais pas au point de ne plus la prendre. Tout comme le joueur de poker qui est anxieux de reperdre ses gains, peut-être c'est quelque chose qui arrivera tout le temps, mais ça ne sera pas paralysant au point de ne plus faire son volume et de ne plus jouer quand il a gagné. Donc il arrivera, malgré cette peur, malgré ce trait de personnalité, on peut dire, à mettre en place des comportements qui voilà, vont lui permettre d'être efficace et de faire son volume et de réussir à jouer alors qu'avant il n'y arrivait pas, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, je suis un peu fouillé peut-être.
Non, c'est très très bien, on est encore dans cette idée de la résilience et je ne m'empêche pas d'avoir certaines pensées sur lesquelles de toute façon je n'ai pas de maîtrise. Encore une fois, c'est parce que c'est le fruit de ma personnalité, de tout ce qui s'est passé, etc. dans ma vie. Mais c'est comment est-ce que je les intègre, comment je travaille dessus, qu'est-ce que j'en fais en fait, voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais. Et dans le cadre de l'anxiété sociale, on est pleinement là-dedans. Et c'est vrai que c'est, si vous voulez, c'est à force de cette logique-là, de qu'est-ce que je fais de ces pensées, comment est-ce que j'arrive à retourner finalement la pièce. C'est une image que j'aime beaucoup quand je travaille avec les gens sur la question de la régulation des émotions, comment j'arrive à retourner la pièce de manière à ce que ces pensées, quand elles m'arrivent, elles me posent moins de problèmes, voire même comment je peux carrément changer un petit peu la nature de l'émotion que je suis en train de vivre. Et ça ne veut, voilà, ça veut pas forcément dire que demain ça n'arrivera plus, mais que l'émotion sera mieux régulée, et comme tu le disais Simon, qu'elle ne nous empêche pas de faire un certain nombre de choses, de vivre un certain nombre de situations, et qu'elle ne nous empêche pas d'être performants dans ces situations. Alors, après, avec des événements, avec des rencontres, avec tout un tas de choses, on peut faire un petit peu évoluer le trait de personnalité, mais considérons que c'est quand même quelque chose de très stable, et qui, s'il n'est pas handicapant et source de grande souffrance dans le quotidien, et qu'il vaut mieux apprendre à accepter et puis travailler autour de ces sujets, encore une fois, d'interprétation, de qu'est-ce que je fais de l'émotion, qu'est-ce que, etc., etc.
Exactement.
C'est un mot que je dis beaucoup, etc., etc. Je crois qu'on m'avait fait remarquer ça dans la première vidéo.
Écoute,
attention.
Pour moi, on est bon. J'espère que vous avez fait un tour intéressant de toutes ces problématiques. Encore une fois, sur chacun de ces points, il y a des choses immenses à dire. Si vous voulez en savoir plus, néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses dans la masterclass Progresser au poker sur les vidéos d'Adrien. Je crois qu'il y a donc 8 heures de vidéos à peu près. C'est très théorique, enfin comme tu le dis, théorico-pratique. C'est-à-dire qu'on vous apporte, enfin, il vous apporte des connaissances pour que concrètement, ça vous aide à changer à la fois vos croyances, votre perception des choses, mais aussi vos actions. Donc, si ça vous intéresse, vous avez déjà la masterclass, allez voir si ce n'est pas déjà le cas ces vidéos ou revoyez-les en prenant des notes. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, je vous invite évidemment à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Adrien, est-ce que tu veux finir sur quelque chose? Et si tu n'as pas d'idée, quoi qu'il en soit, moi, j'aurais aimé savoir si tu n'avais pas un ou deux bouquins à conseiller sur la performance, le mental ou ce que tu veux et qui pourrait être utile à des joueurs de poker.
Voilà, il y en a beaucoup. Sur la question de l'attention, de la concentration, parce que c'est quand même le carburant de la performance, il y a le bouquin de Jean-Philippe Lachaud,
J'étais
Le
sûr.
cerveau funambule. Bah oui,
tu le cites
je
tout le temps,
peux
mais
pas ne
c'est
pas le
sûr, c'est une
citer.
référence. C'est un Français en plus, du coup.
C'est un neuroscientifique français qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'un de nos plus grands représentants en France en termes de chercheurs sur cette question de l'attention. Il travaille aussi beaucoup avec le monde de l'éducation, enfin les écoles. Il a développé des programmes qui sont super intéressants, je le dis entre parenthèses, le programme Atoll, par exemple. Sur la question des émotions, parce qu'en fait c'était finalement le fil rouge hein, de tout ce qu'on s'est dit, l'émotion, ça module tout, ça module l'attention, ça module la mémoire, la capacité d'apprentissage, ça peut vraiment impacter. Je peux vous conseiller un bouquin qui va être peut-être un poil technique pour ceux qui ont vraiment aucune connaissance sur le sujet. C'est un bouquin qui s'appelle Les compétences émotionnelles aux éditions Dunod. Les auteurs, c'est Mikola Jack, j'arrive jamais à
On vous
prononcer
mettra les
son.
liens en description, hein, de toute façon.
Voilà, Jordi Quadbach, Ilios Kotsou, des gens de Belgique, Delphine Nellis. Moi, ce bouquin, je le trouve pas mal. Après, en bouquin vulgarisé, malheureusement, j'en connais peu
S'il y a quelque chose
sur le
qui
sujet. C'est
vient ou
plus
que tu as
des
une
articles.
ref entre-temps, n'hésite
Moi, c'est
pas,
des articles
on la mettra
scientifiques
là.
que j'ai l'habitude de manipuler plus que des livres. Plus que des livres vulgarisés, mais les deux livres que j'ai cités, franchement, ça peut être très très bien pour les gens
Eh
qui.
bien écoute, top. Très bien. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire quoi que ce soit. Sinon, on est bon.
Non, je suis ravi encore une fois d'avoir fait cette vidéo avec toi, Simon, d'avoir pu échanger avec toi et puis de m'adresser une nouvelle fois à ta communauté. C'est toujours vraiment un plaisir. Si les gens ont des questions, qui n'hésite pas dans les commentaires, mais ça, en tant que youtubeur, tu sauras mieux le dire que moi.
Alors je vais
Et
enchaîner, si vous
puis,
avez des
ouais.
suggestions de vidéos qu'on pourrait faire avec Adrien, je pense qu'il n'y a aucun problème pour trouver 2-3 créneaux dans l'année pour faire des petits sortes d'échanges, podcasts mentaux sur le sujet. Si ça vous plaît, ça reste crucial dans la progression, l'apprentissage et la performance au poker. Vous nous dites et puis on peut vulgariser, échanger, débattre, présenter des choses autour de tout ça, en espérant bah, participer très humblement à l'éducation sur le mental en général et le mental au poker qui est évidemment... plus ou moins la moitié des fondamentaux qui vous permettront d'être un bon joueur de poker. Bah écoute, je te remercie beaucoup Adrien. À
C'est
très
moi.
bientôt. Et puis je te tiendrai au courant alors des prochains sujets qu'on traitera sur Kill Tilt du coup.
Avec grand plaisir, Simon. Merci à toi et merci à toutes et à tous.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est grâce à votre soutien que Kill Tilt grandit de jour en jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, très important, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger notre formation gratuite Les Bases du Poker. Vous recevrez un PDF et de nombreuses vidéos pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible. Allez, ciao tout le monde!